L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer cette méditation à partir de la parole et des écrits des pères de l'Église, des papes, concernant la question de la vocation. Et donc nous avons la dernière fois médité, Maud, sur la toute vocation, qu'elle soit célibat ou mariage, et finalement une expérience nuptiale, une expérience des noces à laquelle nous invite le Christ. L'Évangile est très clair dans ce sens. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du discernement de la vocation, quelle qu'elle soit.
Et nous allons pour cela commencer par un texte qui est
la poursuite. Le texte du jeune homme riche.
Le jeune homme riche, voilà, qui est la poursuite du chapitre 19 de l'Évangile de Matthieu. Un homme vint à Jésus avec ces paroles. « Maître, que puis-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » L'autre lui dit, « Quel commandement ?» Jésus répond, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et encore tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui répond, « J'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. Ensuite, reviens et suis-moi. » En entendant ces paroles, le jeune homme s'éloigna fort peiné, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, lorsque viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône dans la gloire, vous aussi vous siégerez pour gouverner les tribus d'Israël. Quant à ceux qui laissent leur maison, leurs frères et sœurs, leurs pères et leurs mères, et même leurs enfants avec leurs champs, à cause de mon nom, ils recevront 100 fois plus, et ils auront aussi la vie éternelle. »
Voilà, vous remarquerez que dans ce texte, il dit « vous laisserez tout », mais il n'a pas dit « vous laisserez vos époux ou vos épouses ». Donc ça veut bien dire que nous sommes, soit en tant que célibataires, soit en tant que mariés, nous sommes appelés vraiment par le Christ. Et toute la méditation de l'Église est comme concentrée, synthétisée concernant ces vocations par les paroles de Jean-Paul II. La révélation chrétienne nous fait connaître deux façons spécifiques de réaliser la vocation à l'amour de la personne humaine dans son intégrité, soit le mariage, soit la virginité. L'une comme l'autre sont des concrétisations de la vérité profonde de l'homme et de son être, qui est d'être à l'image de Dieu. Voilà. Et donc, voilà, nous sommes dans cette réflexion sur le discernement de la vocation, sachant que le célibat consacré sera toujours un peu, bien sûr, une vocation un peu extraordinaire par rapport au caractère plus répandu du mariage. Mais aujourd'hui, rarement, comme depuis 2000 ans, ce dernier semble effectivement de plus en plus rare et difficile à réaliser selon les desseins de Dieu, puisque, c'est les sociologues qui nous le disent, bah, parmi les couples qui aujourd'hui se marient, eh bah, la projection nous fait dire que sans doute 9 couples sur 10 ne finiront pas leur vie ensemble. Comme quoi, ce n'est pas forcément un état purement naturel. Le coït, d'aller faire l'amour avec l'un avec l'une, ça c'est effectivement naturel. Mais d'être fidèle toute une vie avec l'un et avec l'autre, bah aujourd'hui c'est plutôt le fruit de la révélation et de la conversion. C'est inscrit bien sûr dès les origines en nous, mais le péché a fait de tels ravages qu'effectivement nous ne sommes plus spontanément dans cette reconnaissance et cette grâce. Et donc, suivre le Christ demande vraiment de bien discerner cet appel et cette grâce du Christ.
Deux vocations sont maintenant reconnues comme étant quelque part des vocations surnaturelles. Et rappelons-nous au début dans la Genèse, Alex, l'image de Dieu c'était l'homme, être humain, et puis l'homme hommes et femmes. Et donc, les deux appels correspondent à ces deux voies qui manifestent que le salut est entré dans le monde. Donc, le célibataire va signifier que l'homme retrouve sa dignité d'être humain face à Dieu, et l'homme et la femme unis dans l'amour vont signifier que l'homme et la femme retrouvent leur dignité dans leur communion face à Dieu. Donc, nous avons là deux aspects de la révélation qui sont manifestés par ces deux états de vie qui sont complémentaires et qui l'une et l'autre se renvoient une des facettes, si je puis dire, du visage de Dieu.
Voilà, et donc chacune se nourrit et finalement s'enrichit en côtoyant l'autre. C'est pour cela qu'il est toujours très intéressant et très riche à un niveau pastoral que justement des jeunes qui sont en émergence de discernement de vocation se confrontent aux côtés de célibataires consacrés et de mariés consacrés aussi au Seigneur, pour qu'au fur et à mesure, garçons et filles, au fur et à mesure, justement, puissent discerner, entre guillemets, les couleurs de leur cœur, sachant que finalement, aujourd'hui, on le voit bien, choisir l'une ou l'autre des vocations n'est aucunement un choix raisonnable, mais un choix qui est le don de la grâce. Car le Christ lui-même le dit, réaliser le mariage selon les desseins de Dieu définis aux origines est quasiment impossible, n'est que le fruit finalement que de la grâce de Dieu.
Voilà, mais si on veut poser un choix libre dans un cheminement de discernement de vocation, il faut forcément que nous prenions le temps de regarder chaque vocation avec ce qu'elle a de magnifique, et puis aussi avec ce qu'elle a de plus difficile et de plus ardu.
Donc, chaque choix est finalement peut-être une souffrance d'une certaine manière.
Voilà, donc pour faire un choix, déjà, il faut voir la beauté de chaque, sinon il n'y a pas de choix. Et il faut pouvoir envisager les deux pour être bien sûr aussi qu'il n'y a pas de notre part ou de façon inconsciente une fuite liée à une blessure quelconque de notre histoire qui fait qu'on refuse d'envisager l'une ou l'autre des vocations. Chaque jeune chrétien ou chaque personne en phase de discernement doit pouvoir envisager avec autant d'émerveillement l'une et l'autre des vocations. Parce que discerner, choisir une vocation, c'est forcément renoncer à l'autre.
Voilà, et c'est ça qui est très important, c'est qu'on se rend bien compte, depuis 25 ans qu'on accompagne des jeunes, ça aussi nos propres enfants, etc., quand ils viennent à accueillir le Christ et à choisir le Christ comme le cœur de leur vie, eh bien effectivement, c'est spontané et c'est logique que finalement, ils regardent avec, entre guillemets, indifférence et aussi avec profond désir toute la richesse de l'un et toute la richesse de l'autre. Et qu'à un moment, il faut bien choisir. Mais que finalement, une vocation chrétienne pour un jeune, finalement, est équilibrée et saine et juste si on a pu regarder et l'un et l'autre. Et regarder et la richesse de l'un et de l'autre, mais aussi voir ce à quoi on renonce.
Oui, ça c'est quelque chose qui est important de souligner, c'est que effectivement chaque voie implique un renoncement quand on choisit, et notamment par exemple pour les mariés, s'engager dans le mariage, c'est renoncer à cette radicalité monastique, religieuse ou sacerdotale, ces temps de prière, cette disponibilité pour le service, pour la mission, pour partir à l'autre bout du monde, pour être libre de ses mouvements, tout pour le Christ, de pouvoir renoncer à ces cœurs à cœur exclusifs avec Dieu,
où on cette a intimité,
cette
100% apostolique, etc.
Renoncer aussi à toute cette formation spirituelle qu'on peut recevoir dans le célibat et qui est beaucoup plus difficile à avoir quand on est marié et avec charge d'enfant, etc.
Donc, travail, etc.
Voilà, quand on choisit le mariage, on renonce aussi à des choses absolument magnifiques de la vie consacrée dans le célibat.
Voilà, et donc le célibataire, lui, renonce aussi à toute une série de choses très très attractives dans le mariage. Il renonce à cette réalité chaleureuse et attrayante d'un partage intime, profond, qui ira jusqu'au bout avec l'autre, qui est l'expérience du mariage. Il renonce à l'exercice de cette sexualité et de cette fécondité charnelle et de donner la vie à cette paternité, cette maternité. Voilà, et ça restera toujours dans sa vie comme une échelle charde dans la chair, et particulièrement pour la femme, dans cette question de porter un enfant, mais aussi pour des hommes, de cette paternité. Et bien sûr, c'est un vrai renoncement pour l'un et pour l'autre.
Mais de la même façon que le célibataire peut rentrer dans une disponibilité de service à tous, le marié renonce à cette disponibilité à tous pour avoir une priorité pour son épouse ou pour son époux. Et il y a là deux aspects différents, mais où chacun, en fait, éclaire un des différents aspects de la relation humaine. Nous ne pouvons pas être tout à tous quand nous sommes mariés, et nous ne pouvons pas rentrer dans une relation privilégiée quand nous sommes consacrés dans le célibat. Voilà, ce sont deux aspects, et à chaque fois, ça correspond à la fois à une richesse et à la fois, je dirais, le revers de la médaille.
Voilà, c'est pour ça, et c'est là où nous avons les recettes du discernement, notamment ignatien, qui est vraiment très plein de sagesse. C'est que la première étape, c'est d'abord vraiment d'accueillir le Christ au cœur de sa vie et comme fondement de sa vie. Et à partir de ce choix du Christ comme pierre d'angle de sa vie, eh bien effectivement, pouvoir regarder, entre guillemets, avec indifférence, ou en tout cas avec beaucoup d'attraction, si on peut dire, la richesse est de l'un et de l'autre, et voir au fur et à mesure, quel est l'appel du Seigneur, quelles sont les modalités d'incarnation de ce choix du Christ que nous faisons. Et c'est pour ça que la pastorale des vocations doit davantage, je dirais, s'appuyer sur, d'abord, le choix pour les jeunes de donner sa vie au Christ, quelle que soit sa modalité, et après, tout sera donné finalement, pas sur croix, et on voit bien combien ce type de pastorale porte énormément de fruits. Alors qu'à un moment, des pastorales qui vont trop se crisper sur telle ou telle vocation, finalement, comme ça brûle les étapes, on se rend bien compte qu'à des moments, ça ne porte pas de fruits, et ce depuis de nombreuses années.
Voilà, puis ce qui est en plus important, c'est que on peut tâtonner dans le choix d'une vocation. Par contre, nous n'avons pas à tâtonner dans le choix de notre vocation à la sainteté, qui est donner de notre vie au Christ.
Voilà, et c'est pour ça que dans ce cadre-là, la miséricorde de Dieu est grande, et on voit bien qu'il appelle non pas simplement les justes, mais les pécheurs, ceux qui ont été vraiment retournés et transformés par le Christ. On se retrouve dans un instant. Voilà, Maud, pour continuer à approfondir cette question du discernement de la vocation, et nous évoquions juste à l'instant toute cette question de la richesse de chacune des vocations et que finalement, pour un jeune, choisir le Christ doit conduire à un moment à être attiré finalement par les deux vocations, célibat et mariage, chacune avec ces choses merveilleuses et à la fois cette attirance extraordinaire de cette expérience et à la fois aussi toutes ces difficultés.
Voilà, donc dans chaque vocation, il y a bien sûr un combat, c'est-à-dire que nous allons mener le combat de notre conversion à l'intérieur de chacune des vocations. Et les outils ne sont pas les mêmes, les outils de sanctification, les difficultés, les grâces ne sont pas les mêmes. Et la façon dont nous avons avancé est différente, mais néanmoins pour le même objectif, arriver jusqu'au royaume.
Voilà, alors d'abord, pour les jeunes, choisir le sacrement de mariage, ce n'est pas une vocation au rabais. Et Jean-Paul II insiste beaucoup là-dessus. Et là encore, il rejoint les écrits des pères de l'Église. On parlera tout à l'heure de ce que disait Saint Jean Chrysostome concernant les différentes vocations. Ce n'est pas une exigence moindre. Et d'ailleurs, Saint Paul va même jusqu'à dire celui qui va croire que le mariage est moins exigeant que le célibat, il pactise avec l'esprit du monde, dit-il dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, et il le dénonce. Voilà, si on croit choisir la tranquillité et le bonheur facile en se mariant, on se trompe grandement, comme l'illustre la grande majorité de couples qui sont aujourd'hui de plus en plus éprouvés, fragilisés, et qui tôt ou tard se séparent, et donne raison à ce que disait le Christ, effectivement en constatant avec les apôtres, effectivement, c'est très 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 difficile de vivre cette fidélité jusqu'au bout.
Absolument. Donc le mariage comporte en lui-même ce combat de la fidélité, ce combat de l'amour sans cesse renouvelé, celui qui ne se lasse pas de l'autre et qui arrive à y trouver toujours sa joie et à rester dans une nouveauté et une fraîcheur de l'amour. Et ça, c'est un vrai challenge, on dirait aujourd'hui, un défi. Que de pouvoir continuer sur 10 ans, sur 15 ans, sur 25 ans, maintenant, Alex, jusqu'à quand parfois 70 ou 80 ans, parce que si la durée de vie s'allonge, la durée des mariages aussi, théoriquement, devrait s'allonger. Donc nous avons là une vraie exigence conjugale qui est de vivre notre fidélité dans la fraîcheur de l'amour renouvelé sans cesse.
Et c'est vraiment, cela s'appuie sur un engagement, mais qui n'est pas simplement humain, qui est pris avec le Christ. J'ai décidé de t'aimer, je veux t'aimer, et pas simplement en serrant les dents, et que cette vocation à ce moment-là soit respectée, entre guillemets, cet engagement soit respecté, mais que ça soit extrêmement triste, mais qu'au contraire, avec le Christ, j'ai décidé de t'aimer, je veux t'aimer, et je veux que ce bonheur soit en crescendo. Et ça, c'est pas donné spontanément, c'est l'histoire d'un combat. Et donc, le mariage, et on le voit bien aujourd'hui, le mariage, dans sa fidélité, dans sa dilatation crescendo, est effectivement un chemin de crête, je dirais étroit, alors qu'il y a peut-être un autoroute qui nous est présenté pour faire que tôt ou tard, notre mariage va être dissous, va être rompu.
Voilà, et ne parlons pas non plus des exigences de la vie conjugale qui veut se vivre selon l'Évangile, notamment sur tous les aspects de la sexualité et de la fécondité. Quel défi que d'accueillir la vie, quelle qu'elle soit, à quelque moment que ce soit, et je veux dire dans n'importe quel état. L'Église nous invite, l'Évangile nous invite à respecter la vie et à faire de nos foyers le lieu d'accueil de la vie, de toute vie. Du début jusqu'à la fin. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on voit quel défi cela représente que de mener ce combat pour la vie, pour le choix d'une sexualité aussi qui respecte la vie.
Alors pour le célibataire, celui qui embrasse la vocation au célibat consacré ou ordonné, là aussi, il y aura à mener un combat. Et d'abord, Maud, le combat de la monotonie.
Bien sûr que pour le célibataire, on envisage plus difficilement une vie dans la durée quand il y a toujours les mêmes horaires, le même cadre, par exemple pour les cloîtrés, vivre toute une vie d'amour avec le Seigneur, avec les mêmes sœurs ou les mêmes frères, les mêmes bancs, la même cellule, le même petit coin de jardin dont on ne sort jamais. C'est sûr que si jamais tout cela n'est pas vivifié par l'amour de Dieu, il peut y avoir un risque d'une monotonie terrible.
Terrible, et d'une vie complètement asséchée et perdue.
Voilà, alors on peut retrouver aussi ça, même dans la vie qui est dans le monde, si je puis dire, des consacrés dans le célibat qui sont dans le monde, ils sont aussi dans une sorte de solitude apparente qui peut donner l'impression de quelque chose de tout de suite très très répétitif.
Et on a bien parlé du célibat comme une expérience nuptiale en épousant le Christ et en épousant l'Église, mais c'est une expérience nuptiale, et donc il faut nourrir, c'est une expérience nuptiale mystique, spirituelle, et donc il faut la nourrir. Et donc le combat pour le célibataire consacré, c'est de nourrir constamment cet amour, ce zèle, cet amour en Jésus. Je veux dire, c'est un appel constant de l'Église, des papes vis-à-vis des consacrés, vis-à-vis des religieux, vis-à-vis des prêtres, de nourrir leur amour, leur expérience amoureuse du Christ et de l'Église dans la prière, dans l'adoration, etc. Et donc c'est un combat. C'est un combat important de respecter également cette relation exclusive et durable avec le Christ, non pas avec une âme sœur, un homme ou une femme. Et donc effectivement, il y aura toujours un désir, un penchant, et la tentation, bien sûr aussi, est le lot de tous les consacrés.
Ce combat pour la radicalité évangélique, notamment par rapport à l'avoir, par rapport à la pauvreté, s'engager toute la vie à ne rien avoir de propre à soi, c'est en soi un choix absolument radical qui doit être le fruit d'un sacré combat. Ce n'est pas inné, c'est tous les jours qu'il faut refaire ce choix du renoncement.
Et donc finalement, cette vocation, qu'elle soit mariage ou célibat, c'est un combat, mais c'est avant tout et un oui libre à l'appel de l'Esprit-Saint. C'est vraiment, nous sommes profondément libres pour répondre à l'Esprit-Saint, sans aucune hiérarchie spirituelle ou de sainteté entre les différentes vocations, et aucune aussi hiérarchie de radicalité. C'est important aussi de le souligner. Mais l'Esprit-Saint conduit chaque homme et chaque femme vers telle ou telle vocation, vers tel ou tel état de vie, vers tel ou tel service ou mission. Et c'est là où la vocation est un grand don de Dieu qui est fait à chacun de manière singulière.
Voilà, si les vocations sont effectivement chacune un appel de Dieu spécifique, pour chacun, il y a une vocation qui est son appel propre et qui est donc pour lui ou pour elle la plus belle voie, la façon la plus intense de réaliser son bonheur dès ici-bas sur cette terre. Comme dit Jean-Paul II, je crois, Alex, hein, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. Chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-là d'une manière, celui-là d'une autre. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun.
Voilà, et pour conclure, Paul dit « Tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. » Voilà toute la complémentarité de ces différentes vocations, choisies librement, mais conduites par l'Esprit-Saint. Et pour conclure, Jean-Paul II insiste fortement sur l'exigence de chacune des vocations. Si quelqu'un choisit le mariage, dit Jean-Paul II. Il doit le choisir tel que le Créateur l'a institué dès les origines. Il doit chercher en lui les valeurs qui correspondent au plan de Dieu. Par contre, si quelqu'un décide de pratiquer la continence pour le royaume des cieux, il doit y chercher les valeurs propres à cette vocation. En d'autres termes, chacun doit agir conformément à la vocation choisie et reçue, vers laquelle chacun est conduit. Voilà, c'est vraiment cette diversité, cette palette de vocations à laquelle chacun est invité. Et donc, nous pouvons vraiment, avec Saint Jean Chrysostome, saisir et comprendre que le Seigneur nous rend profondément libre pour choisir cette vocation, pour le suivre, mais qu'il y a une palette de possibilités, mais que cette palette, à la fois, elle est très diverse, mais à la fois, elle revêt, chacune de ces vocations, revêt une exigence qui lui est propre et qui n'est pas moindre l'une par rapport à l'autre. Écoutons Saint Jean Chrysostome.
Quand le Christ ordonne de suivre la voie étroite, il ne s'adresse pas seulement aux moines, mais à tous les hommes. Vous vous trompez tout à fait si vous pensez qu'il est des choses exigées des séculiers et d'autres des moines. Ils auront les mêmes comptes à rendre. Si certains trouvent dans le mariage un empêchement, qu'ils sachent que ce n'est pas le mariage qui est un empêchement, mais plutôt leur libre arbitre, qu'ils usent mal dans le mariage. Usez chastement du mariage et vous serez les premiers dans le royaume des cieux.
Voilà cette bénédiction de Dieu sur la vocation du célibat, sur la vocation du mariage. Ces bénédictions sont des chemins de bonheur, on ne le dira jamais assez. Notre première vocation, c'est la vocation du bonheur. Elle se traduit de façon très différente, ce qui crée toute la diversité dans l'Église. Mais c'est une expérience en tout cas dilatante que de suivre le Christ, que de l'aimer et de bâtir sa vie avec lui. En tout cas, c'est à ce bonheur que nous vous invitons. Nous prions le Seigneur pour que vous puissiez goûter chacun ce bonheur dans les appels qui sont les vôtres. Et nous vous disons à la semaine prochaine et que le Seigneur vous conduise.
À la semaine prochaine. The extravagant love of God.